J'aime pas lire. J'aime pas lire à lire. J'aime pas lire à lire.
Lire.
J'aime pas lire. J'aime pas lire. J'aime pas lire. J'aime pas lire.
Livre 2. À partir de ce moment, incapable de supporter davantage la vie dans la baleine et irrité de demeurer ainsi inactif, je cherchais quelques moyens qui nous permettraient de nous échapper. D'abord, nous décidâmes de percer un tunnel dans le côté droit de l'animal pour nous frayer un chemin et nous commençâmes à creuser. Mais lorsque nous eûmes avancé de quelques 5 stades, sans parvenir à aucun résultat, nous arrêtâmes le tunnel et nous eûmes l'idée de mettre le feu à la forêt. Ainsi, pensions-nous, la baleine mourrait. Si cela se produisait, il nous serait facile de nous échapper. Nous commençâmes donc à mettre le feu du côté de la queue. Et pendant 7 jours et un nombre égal de nuits, l'animal ne sentit pas la brûlure. Mais le 8e et le 9e, nous comprîmes qu'il était malade. Du moins, il ouvrait moins souvent la gueule, et lorsqu'il le faisait, il la refermait aussitôt. Le 10e et le 11e, enfin, la putréfaction commença, et il se produisit une puanteur. Le 12e, nous nous aperçûmes juste à temps que si on ne lui maintenait pas les mâchoires béantes, tandis qu'elle ouvrait la gueule, de façon à l'empêcher de les refermer, nous risquions d'être enfermés dans son cadavre et d'y périr. Aussi nous étayâmes sa gueule avec de grosses poutres et nous préparâmes notre bateau, embarquant autant d'eau que nous le pûmes, ainsi que les autres provisions. Skintaros devait nous servir de pilote. Le lendemain, la baleine était enfin morte. Nous tirâmes alors notre navire, le faisant passer par les intervalles, puis nous l'attachâmes aux dents de la baleine et le mîmes doucement à la mer. Alors, nous grimpâmes sur le dos de l'animal, et là, nous offrîmes un sacrifice à Poséidon, à côté du trophée, puis nous campâmes en cet endroit pendant 3 jours, car c'était le calme plat. Le 4e, nous mîmes à la voile. Sur notre route, nous trouvâmes quantité de cadavres provenant de la bataille navale, que nous heurtâmes de notre proue et nous mesurâmes les corps avec étonnement. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes, par brise modérée, mais, ensuite, se leva un fort vent du nord, qui amena une gelée intense, sous l'effet de laquelle la mer tout entière se trouva prise en glace. Non seulement à la surface, mais jusqu'à une profondeur de bien 6 coudées, si bien que nous débarquâmes et que nous nous mîmes à courir ça et là sur la glace. Comme le vent se maintenait et que nous ne pouvions le supporter, nous eûmes l'idée du stratagème suivant. Ce fut Skintaros qui le proposa. Nous creusâmes dans l'eau une caverne de grande dimension où nous restâmes pendant 30 jours, y allumant du feu et faisant cuire les poissons que nous avions trouvés en creusant. Lorsque nous n'eûmes plus de provisions, nous sortîmes, tirâmes le bateau de sa prison de glace et, toute voile dehors, comme si nous naviguions, nous nous mîmes à glisser doucement et sans heurts sur la glace. Le 5e jour, il se remit à faire chaud, la glace fondit et tout redevint de l'eau, comme avant.
Après avoir navigué encore quelques 300 stades, nous rencontrâmes une île petite et déserte sur laquelle nous prîmes de l'eau car nous n'en avions plus, nous tuâmes à coups de flèches 2 taureaux sauvages et nous repartîmes. Ces taureaux n'avaient pas les cornes sur la tête, mais sous les yeux, comme le souhaitait Momos. Peu après, nous pénétrions dans une mer qui n'était pas pleine d'eau, mais de lait, et au beau milieu, nous apparut une île blanche remplie de vignes. Cette île était un énorme fromage durci, comme nous nous en aperçûmes plus tard en le goûtant. Son périmètre était de 25 stades. Les vignes étaient chargées de grappes, mais le liquide que nous obtînmes en les pressant fut non pas du vin, mais du lait que nous bûmes. Au milieu de l'île se dressait un temple consacré à la Néréide Galatée, comme le révélait l'inscription. Tout le temps que nous séjournâmes dans cette île, la terre nous fournit le pain et la viande. Notre boisson était le lait provenant des grappes. On disait que la reine du pays était Tyro, la fille de Salmoné, qui, après son départ de notre monde, avait reçu ce présent de Poséidon. Nous demeurâmes 5 jours dans cette île, et nous partîmes le 6e, accompagnés par une brise favorable, tandis que la mer ondulait doucement. Le 8e jour, nous ne naviguions plus sur du lait, mais sur de l'eau bleue et salée, nous apercevons un grand nombre d'hommes courant çà et là sur la mer, semblables en tout à nous-mêmes, par leur corps et par leur taille, excepté seulement les pieds. Cette partie d'eux-mêmes était de liège, et c'est, je pense, la raison pour laquelle on les appelait « pieds de liège ». Nous étions étonnés de ne pas les voir s'enfoncer, mais demeurer sur la crête des vagues et cheminer sans peur. Ils s'approchèrent de nous et nous saluèrent en grec. Ils nous dirent qu'ils étaient en route pour Liège, leur patrie. Pendant quelques distances, ils nous accompagnèrent en courant à côté de nous, puis ils obliquèrent et suivirent leur chemin en nous souhaitant bonne route.
Peu après, apparurent beaucoup d'îles. La plus rapprochée de celle qui se trouvait à tribord était Liège, où allaient ces gens. C'était une ville construite sur un énorme bouchon rond. Un peu plus loin, et plus à droite, il y avait 5 îles très grandes et très élevées, où brûlait un grand feu. Droit devant nous, il y en avait une autre, plate et basse, qui n'était pas à moins de 500 stades. Lorsque nous nous en fûmes rapprochés, une brise extraordinaire souffla vers nous, délicieuse et embaumée, pareille à celle qui, selon l'historien Hérodote, s'exhale de l'Arabie heureuse. Tel que serait le parfum de rose, de narcisse, de jacinthe, de lys et de violette, avec en plus celui de la myrrhe, du laurier et de la vigne en fleurs. Telle était l'odeur délicieuse qui nous parvint. Charmés de ce baume, concevant les plus doux espoirs après nos longues peines, nous nous rapprochions enfin peu à peu de cette île. Là, nous apercevions aussi, tout autour d'elle, quantité de ports, vastes et abrités des flots, des fleuves transparents coulant doucement vers la mer, et aussi des prairies, des bois et des oiseaux chanteurs, les uns chantant sur le rivage, les autres, la plupart, dans les branchages. Une atmosphère légère et agréable à respirer entourait ce pays. Une brise délicieuse, soufflant doucement, agitait faiblement la forêt, si bien que du mouvement des rameaux montait une musique pleine de charme, ininterrompue, pareille à celle des flûtes de Pan, jouant dans les solitudes. De plus, on entendait, comme un fond continu, des bruits indistincts, mais pas discordants, mais comme il peut s'en produire dans un banquet où les uns jouent de la flûte, les autres chantent, les autres marquent la mesure au son de la flûte ou de la lyre. Charmés de tout cela, nous abordâmes, jetâmes l'ancre et débarquâmes, ne laissant à bord que Skintaros et 2 de nos camarades. Tandis que nous avancions à travers une prairie remplie de fleurs, nous rencontrâmes des gardes et des sentinelles qui nous attachèrent avec des guirlandes de roses. C'est le lien le plus solide que l'on ait dans le pays, et nous conduisirent vers leur gouverneur. Ils nous apprirent en chemin que cette île était appelée l'île des Bienheureux, et qu'elle était gouvernée par le Crétois Radamante. On nous traduisit devant lui, et l'on nous donna le 4e rang parmi ceux qui attendaient d'être jugés. La première cause était celle d'Ajax, fils de Télamon, pour savoir s'il devait partager le sort des héros ou non. Il était accusé d'être devenu fou et de s'être suicidé. Finalement, après bien des paroles échangées, Radamante décida que pour le moment, on le remettrait au médecin Hippocrate de Cos pour prendre de l'hélébore et que plus tard, une fois redevenu raisonnable, il prendrait place au banquet des héros. La seconde affaire en cause était une histoire d'amour entre Thésée et Ménélas, qui se disputaient pour savoir avec lequel des deux devrait vivre Hélène. Radamande décida qu'elle vivrait avec Ménélas, étant donné que celui-ci avait pris tant de peine et couru tant de dangers pour sa femme. D'ailleurs, Thésée avait, dit-il, d'autres épouses, l'Amazone et les filles de Minos. La troisième cause était un procès concernant l'attribution de la préséance à Alexandre, fils de Philippe, ou à Hannibal, le Carthaginois. Radamante fut d'avis qu'elle revenait à Alexandre et on lui donna un siège à côté du Perse Cyrus l'Ancien. Enfin, quatrième, l'on nous fit comparaître. Radamante nous demanda ce qui nous était arrivé pour que nous ayons mis encore vivant le pied sur cette terre sacrée. Et nous lui racontâmes toute notre histoire. Après quoi, il nous fit retirer et réfléchit longuement, consultant sur notre cas ses assesseurs. Il avait beaucoup d'assesseurs, et notamment Aristide le Juste, d'Athènes. Lorsqu'il eut décidé, la sentence fut prononcée. Pour notre curiosité et ne pas être restés chez nous, nous aurions des comptes à rendre une fois morts. Pour l'instant, nous resterions un temps déterminé sur l'île et nous partagerions la vie des héros, après quoi nous nous en irions. Ils fixèrent la durée de notre séjour à 7 mois au plus.
Sur quoi, nos guirlandes tombèrent d'elles-mêmes et nous fûmes libres. On nous conduisit dans la ville et au banquet des bienheureux. La ville elle-même est entièrement d'or et la muraille qui l'entoure d'émeraude. Il y a 7 portes, toutes d'une seule pièce, en bois de cannelle. Le sol même de la cité et la terre qui s'étend à l'intérieur des remparts sont d'ivoire. Les temples de tous les dieux sont construits en béryl, et dans chacun d'eux s'élèvent de grands autels monolithiques, en améthyste, où ils font les hécatombes. Autour de la ville coule un fleuve de la myrrhe la plus pure, d'une largeur de 100 coudées royales et profond de 5, de façon que l'on peut y nager commodément. Les bains sont de vastes édifices de verre chauffés avec du bois de cannelier. En guise d'eau, il y a dans les baignoires de la rosée chaude. Pour se vêtir, ils se servent de toiles d'araignée légères, couleur de pourpre. Quant aux habitants eux-mêmes, ils n'ont pas de corps. On ne peut pas les toucher. Ils sont sans chair et n'ont de visible que leur forme et leur silhouette. Tout incorporels qu'ils soient, ils n'en sont pas moins vivants, se meuvent, pensent et parlent, bref, il semble que leur âme, toute nue, aille çà et là, revêtue de la ressemblance de leur corps. Si on ne les touchait pas, on ne pourrait dire que ce que l'on voit n'est pas un corps, car ils sont comme des ombres, debout, et qui ne seraient pas noirs. Aucun ne vieillit, mais chacun reste à l'âge qu'il avait en arrivant. Il ne fait non plus jamais nuit dans ce pays, ni jamais tout à fait plein jour. La lumière qui l'environne est pareille à la clarté de l'aube avant l'aurore, lorsque le soleil n'est pas encore levé. Ils ne connaissent aussi qu'une seule saison de l'année, car chez eux, c'est toujours le printemps, et il n'y souffle qu'un seul vent, qui est le zéphyr. Le pays est fertile en toutes sortes de fleurs, en toutes sortes de plantes cultivées et sauvages. Les vignes y portent 12 récoltes et on les vendange chaque mois. On dit que les grenadiers, les pommiers et les autres arbres fruitiers donnent 13 récoltes, car il est un mois, celui qu'ils appellent mois de Minos, où il y a 2 récoltes. Au lieu de grains, les blés portent des pains tout cuits au bout de leurs tiges, ce qui les fait ressembler à des champignons. En fait de source, il y en a, autour de la ville, 365 qui donnent de l'eau, un nombre égal du miel, 500 de la myrrhe, plus petite toutefois, ainsi que 7 fleuves de lait et 8 de vin. Le banquet des héros est servi hors de la ville, dans la plaine appelée Élysée. C'est une très belle prairie autour de laquelle il se trouve une épaisse forêt de toutes sortes d'essences qui ombrage les convives. Les lits sont jonchés de fleurs. Les convives sont servis par les vents qui leur apportent tout ce qui leur est nécessaire, sans toutefois leur verser le vin, car pour cela, ils n'ont besoin de personne. Il y a en effet, autour du banquet, de grands arbres de cristal, du cristal le plus pur, et ces arbres ont comme fruit des vases à boire de toutes les formes et de toutes les tailles. Lorsque quelqu'un vient prendre place au banquet, il cueille un ou deux de ces vases et les place devant lui, et aussitôt, ils s'emplissent de vin. C'est ainsi qu'ils boivent. En guise de guirlande, les rossignols et les autres oiseaux chanteurs cueillent avec leur bec des fleurs dans les prairies voisines et les répandent sur eux, comme une neige, en volant au-dessus, tout en chantant. Ils sont de plus parfumés de la façon suivante. Des gros nuages s'emplissent de myrrhe qu'ils font monter des sources et de la rivière, s'assemblent au-dessus du banquet et doucement, pressés par les vents, font descendre sur les convives comme une légère rosée. Tout en dînant, ils passent le temps en faisant de la musique et en chantant. On leur chante surtout les vers d'Homère. Homère lui-même est présent et partage leur réjouissance, étendue au-dessus d'Ulysse. Leurs chœurs sont composés de jeunes garçons et de jeunes filles. Ils sont conduits par le Locrien Eunomos, Arion de Lesbos, Anacréon et Stésichore. J'ai vu en effet celui-ci parmi eux, car Hélène s'était réconciliée avec lui. Lorsque ses enfants ont fini de chanter, un autre chœur apparaît, formé de cygnes, d'hirondelles et de rossignols. Et tandis qu'ils chantent, la forêt tout entière les accompagne sous la direction des vents. Mais ce qui, principalement, sert à leur réjouissance est ceci. Il y a deux sources près de la table du banquet, l'une de rire, l'autre de plaisir. Tous, au début de la fête, commencent par y boire, et ils passent le reste du temps à se réjouir et à rire.
Mais je désire donner le nom des personnages les plus célèbres que je vis là-bas. Il y avait tous les demi-dieux et les anciens soldats de la guerre de Troie, à l'exception toutefois d'Ajax le Locrien, le seul, me dit-on, qui a été puni dans le séjour des impies. Parmi les barbares, les deux Cyrus, le Scythe Anacharsis, le Thrace Zalmoxis et l'Italien Numa. Il y avait aussi Lycurgue le Lacédémonien, Phocion et Télos d'Athènes et les sages, sauf Périandre. Je vis aussi Socrate, le fils de Sophroniscos, en train de bavarder avec Nestor et Palamède. Non loin de lui se trouvaient Hyacinthos, le Lacédémonien, Narcisse de Thespie, Hylas et d'autres beaux garçons. Il me semble qu'il était amoureux d'Hyacinthos, car c'est lui qu'il réfutait le plus souvent. On disait que Radamante était irrité contre lui et qu'il avait souvent menacé de le bannir de l'île s'il continuait à dire des sottises et ne vouloir pas mettre un terme à son ironie et se réjouir tout simplement. Platon, seul, n'était pas là. On disait qu'il vivait dans la cité qu'il avait imaginée lui-même, en appliquant la constitution et les lois qu'il avait rédigées. Les disciples d'Aristippe et d'Épicure avaient la première place, car ils étaient plaisants, agréables et fort bons buveurs. Il y avait aussi Ésope le Phrygien, qui tient auprès d'eux le rôle de bouffon. Diogène de Sinope avait changé ses manières au point d'épouser la courtisane Laïs, de se lever souvent et de danser quand il était ivre, et de se livrer à toutes sortes d'excentricités dans son vin. Des stoïciens, aucun n'était là. On disait qu'ils étaient encore en train de gravir la pente raide de la vertu. Nous entendîmes plus particulièrement raconter, à propos de Chrysippe, qu'il ne lui était pas permis de mettre les pieds sur l'île avant d'avoir été soumis à 4 traitements d'hélébore. On disait que les académiciens voulaient bien venir, mais qu'ils étaient encore en suspens et qu'ils réfléchissaient, car ils ne pouvaient même pas arriver à conclure fermement à l'existence d'une telle île. Mais, de plus, ils craignaient, je suppose, le jugement de Radamante, étant donné qu'ils avaient eux-mêmes supprimé toute faculté de jugement. On disait aussi que beaucoup avaient tenté de suivre ceux qui venaient ici, mais que leur lenteur les avait fait rester en arrière, incapables de les rattraper, et qu'ils avaient rebroussé chemin à mi-route. Tels étaient les plus remarquables des présents. On rend là-bas des honneurs tout particuliers à Achille, et après lui, à Thésée. Quant aux amours et aux relations sexuelles, Voici quelle est leur attitude. Ils s'accouplent devant tout le monde, sous les yeux de chacun, aux femmes et aux garçons, et ils ne trouvent là absolument rien de honteux. Seul Socrate jurait qu'il restait chaste dans ses relations avec les jeunes gens, mais tous le pensaient coupable de parjure. Souvent, en tout cas, Hyacinthos et Narcissos l'avouaient, mais lui le niait. Les femmes sont communes à tous et aucun n'est jaloux de son voisin. Ils sont sur ce point les plus platoniciens. Et les jeunes garçons se prêtent à qui veut, sans faire d'objection. Deux ou trois jours ne s'étaient pas encore écoulés que j'allais trouver le poète Homère, alors que nous étions tous deux de loisir. Je lui posais diverses questions et en particulier lui demandais de quel pays il était. Car c'est un point sur lequel, chez nous, l'on s'interroge encore très souvent. Il me répondit qu'il n'ignorait pas que les uns le considéraient comme originaire de Chios, les autres de Smyrne et beaucoup de Colophon. Mais en fait, dit-il, il était babylonien, et chez ses compatriotes, il ne s'appelait pas Homère, mais Tigrane. C'est seulement plus tard, devenu otage chez les Grecs, qu'il avait changé de nom. Ensuite, je l'interrogeai sur les vers condamnés, lui demandant s'ils avaient été écrits par lui. Il affirma qu'ils étaient tous de lui. Je jugeai donc que les grammairiens Zénodote et Aristarque étaient de grands radoteurs. Lorsqu'il m'eut satisfait par ses réponses sur ces points, je lui demandai encore pourquoi donc il avait commencé avec la colère d'Achille, et il me répondit que cela lui était venu ainsi sans qu'il y réfléchît. Et si je désirais aussi savoir s'il avait écrit l'Odyssée avant l'Iliade, comme on le dit généralement, il me dit que non. Qu'il n'était pas aveugle, ainsi qu'on le prétend, je m'en aperçus immédiatement. Je le vis bien sans avoir besoin de le lui demander. J'agis de la sorte à plusieurs reprises, toutes les fois que je le voyais de loisir. Je m'approchais de lui, et je lui posais une question, et il me répondait toujours très volontiers, surtout lorsqu'il s'agissait du procès qu'il avait gagné. C'est une action en diffamation intentée contre lui par Thersite, pour s'être moqué de lui dans son poème. Homère avait gagné avec Ulysse comme avocat.
Vers le même moment, arriva aussi Pythagore de Samos, après avoir subi 7 métamorphoses, traversé autant de vies dans des corps différents et qui avait maintenant terminé les migrations de son âme. Toute sa moitié droite était en or. Il fut autorisé par jugement à partager la vie des héros, mais un point restait douteux, de savoir s'il fallait l'appeler Pythagore ou Euphorbos. Empédocle vint lui aussi, tout brûlé, et le corps entièrement cuit, mais il ne fut pas reçu, malgré toutes ses supplications. Le temps passant, arriva le moment des jeux qu'il célébrait là-bas, les jeux funériques. Les juges étaient Achille pour la 5e fois et Thésée pour la 7e. Il serait trop long d'en exposer tous les détails, je ne dirai que l'essentiel de ce qui se passa. À la lutte, le vainqueur fut Caranos, le descendant d'Héraclès, qui avait en face de lui Ulysse pour le titre. La boxe se termina par un match nul entre Areios l'Égyptien, qui est enterré à Corinthe, et Épéios, qui furent opposés l'un à l'autre. Le Pancrace ne constitue pas une épreuve de concours chez eux. Quant à la course, je ne me rappelle plus qui la remporta. Quant au poète, réellement, Homère était de beaucoup supérieur. Pourtant, ce fut Hésiode qui remporta le prix. Pour tous, le prix était une couronne tressée en plumes de paon. Les jeux venaient à peine de se terminer lorsqu'on annonça la nouvelle que les suppliciés du séjour des impies avaient brisé leurs liens, maîtrisé leurs gardiens et marchaient sur l'île. Ils avaient à leur tête Phalaris l'agrigente, l'égyptien Busiris, Diomède de Thrace, ainsi que Siron et Pithiocamptès. Lorsqu'il l'apprit, Radamante rangea les héros en bataille sur la plage. Les commandants furent Thésée, Achille et Ajax, fils de Télamon, qui avaient recouvré ses esprits. La mêlée s'engagea, et les héros furent vainqueurs, surtout grâce aux exploits d'Achille. Socrate aussi, qui était placé à l'aile droite, se distingua, bien plus que lorsqu'il participa de son vivant à la bataille de Délium. Comme il était attaqué par 4 ennemis, il ne s'enfuit pas et aucune émotion n'apparut sur son visage. C'est pourquoi par la suite, on lui offrit une magnifique récompense, un grand et beau jardin dans le faubourg, où il réunissait ses compagnons pour discuter. Il appela cet endroit l'Académie des Morts. On arrêta les vaincus, on les enchaîna, et on les renvoya d'où ils venaient pour être punis plus sévèrement encore. Homère chanta cette bataille, et lorsque je m'en allais, il me donna le livre pour que je le rapporte aux hommes. Mais par la suite, je le perdis aussi avec mes autres affaires. Voici quel était le début du poème. « Maintenant, ma muse, chante la guerre des héros morts. » En cette occasion, ils firent cuire des fèves, comme le veut là-bas la coutume, lorsqu'ils ont gagné une guerre. Ils firent un festin en l'honneur de la victoire et célébrèrent une grande fête. Seul Pythagore s'abstint d'y participer. Il resta assis à l'écart sans manger, car il détestait les fèves.
Six mois s'étaient déjà écoulés et nous étions à la moitié du septième lorsque se produisit une mutinerie. Cinyras, le fils de Skintaros, qui était grand et beau, était déjà depuis longtemps amoureux d'Hélène et il était clair qu'elle aussi était amoureuse folle du jeune homme. Souvent, ils se faisaient des signes au banquet, buvaient à la santé l'un de l'autre, se levaient ensemble et allaient se promener dans la forêt. Bref, un jour, amoureux et désespéré, Cinyras décida d'enlever Hélène, elle accepta d'ailleurs volontiers, et de s'en aller avec elle dans l'une des îles voisines, c'est-à-dire soit à Liège, soit à Fromagère. Il avait depuis longtemps pris comme complices trois de mes compagnons, parmi les plus audacieux. Mais il ne révéla pas la chose à son père, car il savait que celui-ci l'aurait empêché de le faire. Une fois leur décision prise, ils se mirent en devoir de l'accomplir. La nuit venue, je n'étais pas là, il se trouvait que je m'étais endormi pendant le banquet. À l'insu de tout le monde, ils emmènent Hélène et appareillent en hâte. Vers minuit, Ménélas s'éveilla et s'apercevant que sa femme n'était pas dans le lit, il se mit à crier très fort, prit son frère avec lui et alla trouver le roi Radamante. Au lever du jour, les guetteurs dirent qu'ils apercevaient le navire à une grande distance. Alors, Radamante fit monter 50 héros à bord d'une pirogue creusée dans un asphodèle et leur ordonna de prendre les autres en chasse. Et eux, ramant de toute leur force, les rattrapèrent vers midi, au moment où ils allaient pénétrer dans la partie de l'océan qui est de Lait, près de Fromagère. Ils étaient à deux doigts de s'échapper. Les héros amarrèrent le navire avec des guirlandes de lierre et le ramenèrent en remorque. Hélène pleurait et dans sa honte se cachait le visage. Quant à Cinyras et ses amis, Radamante commença par leur demander s'ils avaient d'autres complices. Il n'en avait aucun, il les fit attacher par le membre et envoyer au séjour des impies, après les avoir fait fouetter avec de la mauve. On décida aussi de nous renvoyer nous-mêmes de l'île avant le terme fixé, en ne nous permettant de rester qu'un jour encore. Sur quoi je me mis à me lamenter et à pleurer sur le bonheur que je laissais pour recommencer à errer. Mais ils me consolèrent en me disant que dans peu d'années, je reviendrai parmi eux. Et ils me montrèrent même mon siège futur et la place que j'occuperai auprès des morts les plus en vue. J'allais trouver Radamante et le supplier longuement de me révéler le futur et de me dire quelle route suivre. Il me répondit que je reviendrai dans ma patrie après avoir longtemps erré et couru bien des dangers, mais il refusa de me dire à l'avance le moment de mon retour. Me montrant des îles qui se trouvaient au voisinage, il y en avait 5 que l'on voyait, ainsi qu'une 6e un peu plus loin, il m'apprit que c'étaient les îles des impies qui se trouvaient près de nous. « Celle où tu vois, me dit-il, brûlait un grand feu. La 6e, là-bas, est la cité des songes. Après encore est l'île de Calypso, mais tu ne peux pas l'apercevoir encore. Quand tu les auras longées, alors tu parviendras au grand continent qui se trouve en face de celui que vous habitez. Là, après bien des épreuves, après avoir traversé bien des peuples divers et rencontré des hommes hostiles, avec le temps, tu arriveras à l'autre continent. » Après ces paroles, il arracha de la terre une racine de mauve et me la tendit, m'invitant à lui adresser une prière dans mes graves périls. Et il me conseilla, si jamais j'arrivais dans ce pays-ci, de ne jamais attiser le feu avec une épée, de ne pas manger de lupin et de ne pas faire l'amour avec un garçon de plus de 18 ans, ajoutant que si je me souvenais de ses conseils, j'avais les plus grands espoirs de revenir dans l'île.
Je me mis alors à faire les préparatifs du voyage, et le moment venu, j'allais les rejoindre au banquet. Le lendemain, j'allais trouver le poète Homère et lui demandai de composer pour moi une inscription de 2 vers. Lorsqu'il l'eut fait, je dressai sur le port une stèle en béryl où je les fis graver. L'inscription était celle-ci. Lucien, le bien-aimé des dieux bienheureux, a vu tout ce pays, et puis il est parti vers sa chère patrie. Je restai encore ce jour-là, et le lendemain, je levai l'ancre, accompagné jusqu'au bateau par les héros. Là, Ulysse vint à moi, à l'insu de Pénélope, et me donna une lettre à porter à Calypso, dans l'île d'Ogypie. Radamante me donna pour m'accompagner le pilote Nauplios, afin d'éviter que, si nous abordions dans une des îles, personne ne nous arrête, pensant que nous venions pour une autre raison que la vraie. Après avoir quitté l'atmosphère parfumée, loin de laquelle nous entraînait notre navigation, aussitôt nous fûmes accueillis par une puanteur épouvantable, comme d'asphalte, de soufre et de poids brûlant tout ensemble, et aussi une odeur terrible, insupportable, comme celle d'hommes que l'on grille. L'air était sombre, embrumé, et il en tombait comme une rosée de pois. Nous entendîmes aussi le bruit des fouets et les gémissements d'une foule immense. Nous n'approchâmes pas des autres îles, mais celle où nous abordâmes présentait l'aspect suivant. Elle était escarpée tout autour et sans aucune végétation. Des rochers et des éboulis de pierre la hérissaient, et il n'y avait ni arbres, ni eau. Nous grimpâmes cependant jusqu'en haut des falaises, et nous avançâmes par un chemin plein d'épines, de pieux aigus. Tout le pays était fort laid. Parvenus à la prison, où ont lieu les supplices, d'abord nous fûmes étonnés par la nature de l'endroit. Le sol lui-même était entièrement parsemé de coutelas et de pieux aigus, et tout autour coulaient des rivières, l'une de boue, la seconde de sang, celle de l'intérieur de feu. Celle-ci était fort grande, impossible à franchir, elle coulait comme de l'eau, et des vagues se formaient à sa surface, comme sur la mer. Elle contenait un grand nombre de poissons, les uns semblables à des torches, et d'autres petits qui avaient l'air de charbons ardents. On les appelait des lanterneaux. Il n'y avait pour les franchir toutes qu'un passage étroit, dont le portier était Timon d'Athènes. Nous pûmes cependant passer sous la conduite de Nauplios, et nous vîmes là, en train de subir leur châtiment, beaucoup de rois et beaucoup de simples particuliers dont nous reconnûmes même quelques-uns. Nous vîmes en particulier Cinyras, attaché par les parties, en train de brûler à petit feu. Les guides nous apprirent la vie de chacun des suppliciés et les fautes pour lesquelles ils étaient punis. Les châtiments les plus graves de tous étaient subis par ceux qui avaient menti au cours de leur vie et les écrivains qui n'avaient pas dit la vérité, parmi lesquels Ctésias de Cnide et Hérodote et bien d'autres. En les voyant, je conçus les meilleures espérances pour le futur, car je n'ai jamais menti sciemment. Je revins très vite au bateau, car je ne pouvais supporter ce spectacle. Je saluai Nauplios et repartis.
Peu après, apparut tout près de nous l'île des songes, embrumée et incertaine à la vue. Elle avait elle-même quelque chose d'un songe, car elle se retirait à mesure que nous approchions, fuyait et réapparaissait plus loin. Nous finîmes cependant par la rattraper et nous entrâmes dans son port, nommé Sommeil, accostant non loin des portes d'ivoire, à l'endroit où se trouve le sanctuaire de Coque. Il était nuit close lorsque nous débarquâmes. En parcourant la ville, nous vîmes quantité de songes variés, mais je désire d'abord parler de la ville, car jamais personne n'en a parlé dans aucun récit. Le seul qui en est fait mention est Homère, mais ce qu'il en a dit n'est pas tout à fait exact. Tout autour d'elle se dresse une forêt dont les arbres sont de grands pavots et des mandragores, sur lesquels se trouve une immense quantité de chauves-souris. C'est le seul oiseau qui vive dans l'île. Il coule auprès de la ville une rivière qu'ils appellent la Somnambule, et il y a deux sources près des portes. Elles s'appellent l'une la Somnolente, l'autre Tour du Cadran. L'enceinte de la ville est élevée et de plusieurs couleurs, semblable aux teintes de l'arc-en-ciel. Les portes, toutefois, sont non pas au nombre de deux, comme l'a prétendu Homère, mais de quatre. deux donnent sur la plaine de l'indolence, l'une est en fer, l'autre en terre cuite. C'est par là, dit-on, que sortent les songes effrayants, sanguinaires et obscènes. Deux autres portes donnent sur le port et la mer, l'une de corne et l'autre, par laquelle nous pénétrâmes, d'ivoire. Lorsque l'on entre dans la ville, à droite se trouve le temple de la nuit. C'est celle des divinités qu'il révère le plus, ainsi que le coq. Le sanctuaire de celui-ci s'élève près du port. À droite, il y a le palais du sommeil. C'est en effet le sommeil qui règne dans le pays. Il a avec lui deux gouverneurs qui lui sont subordonnés, Cauchemar, fils de rien, et Riche Homme, fils d'imagination. Au milieu de la place publique se trouve une source, qu'ils appellent Migraine, auprès de laquelle se dressent deux temples, l'un à Tromperie, l'autre à Vérité. Là est leur saint des saints, ainsi que leur oracle, à la tête duquel est placé Antiphon, l'interprète des songes. C'est Sommeil qui l'a nommé à cette fonction. Quant aux songes eux-mêmes, ils diffèrent de nature et d'aspect. Les uns sont grands, beaux, plaisants à regarder. Les autres, petits et laids. Les uns étaient riches apparemment, les autres, humbles et sans fortune. Il y en avait parmi eux aussi certains qui étaient ailés et d'un aspect monstrueux. D'autres qui étaient habillés comme pour une procession, déguisés, qui en roi, qui en dieu, qui en différents personnages analogues. Nous en reconnûmes même beaucoup que nous avions vus autrefois sur la terre. Ceux-ci nous abordèrent, nous saluèrent comme de vieilles connaissances, nous emmenèrent, nous firent dormir admirablement et nous accueillirent chez eux très aimablement. Ils nous traitèrent de façon splendide et en particulier promirent de faire de nous des rois et des satrapes. Certains, même, nous emmenèrent dans notre patrie, nous montrèrent nos parents et nous ramenèrent le même jour. Nous restâmes dans ce pays 30 jours et autant de nuits, pendant lesquelles nous dormîmes royalement. Après quoi, un grand coup de tonnerre retentit soudain. Nous nous éveillâmes, et en courant, nous remontâmes à bord, après avoir embarqué des provisions.
À 3 jours de là, nous atteignîmes l'île d'Ogypi, où nous descendîmes. Mais d'abord, je décachetai la lettre et lus ce qu'elle contenait. Ulysse à Calypso, salut. Sache que peu de temps après être parti de chez toi, sur le radeau que j'avais construit, j'ai fait naufrage et j'ai été sauvé de peu par Leucothéa, qui m'a permis d'atteindre le pays des Phéaciens. Ceux-ci me raccompagnèrent chez moi, où je trouvai un grand nombre de soupirants autour de ma femme, qui s'engraissaient sur notre bien. Je les tuai tous. Plus tard, je fus moi-même assassiné par Télégonos, le fils que j'avais eu de Circé. Et maintenant, je suis dans l'île des Bienheureux, regrettant fort d'avoir quitté la vie que je menais chez toi et l'immortalité que tu m'offrais. Si j'en trouve l'occasion, je m'échapperai et reviendrai auprès de toi. Voilà ce que disait la lettre, et elle ajoutait à notre sujet que l'on devait bien nous recevoir. Je m'éloignais un peu de la mer, et je trouvais la grotte telle que l'a décrit Homère. Calypso elle-même était en train de filer de la laine. Lorsqu'elle eut pris et lu ma lettre, elle commença par pleurer longuement. Puis elle nous offrit l'hospitalité, nous fit faire un excellent repas et nous posa des questions sur Ulysse et Pénélope, nous demandant à quoi elle ressemblait et si elle était aussi sage que s'en vantait autrefois Ulysse. Et nous lui fîmes les réponses que nous crûmes devoir lui être agréables. Après quoi, nous retournâmes au bateau et nous dormîmes près de la plage. Au jour, nous appareillâmes par forte brise. Nous fûmes secoués par la tempête pendant 2 jours, et le troisième, nous tombâmes sur les citrouillots pirates. Ce sont des sauvages qui attaquent des îles voisines les bateaux qui passent dans les parages. Ils ont comme bateaux des citrouilles énormes, longue de 60 coudées. Après avoir fait sécher la citrouille, il la creuse, enlève la pulpe et s'y embarque, utilisant comme mât des roseaux et en guise de voile des feuilles de citrouille. Ils nous assaillirent à 2 équipages et nous livrèrent bataille. Ils en blessèrent beaucoup parmi nous, en nous lançant, en guise de pierre, des pépins de citrouille. Après avoir longtemps combattu sans résultat, voici que, vers midi, nous vîmes arriver, par l'arrière des citrouilles aux pirates, des marins de noix. Ils étaient ennemis les uns des autres, ainsi qu'ils le prouvèrent. Dès que les premiers s'aperçurent de l'arrivée des autres, ils ne s'occupèrent plus de nous, mais, faisant face aux nouveaux venus, leur livrèrent bataille. Et nous, pendant ce temps, nous hissâmes nos voiles et nous nous enfuîmes, les laissant se battre. Il était évident que les marins des Noix l'emporteraient, car ils étaient plus nombreux. Il y avait de leur côté 5 équipages, et ils combattaient sur des bateaux plus robustes. Leurs navires étaient en effet des moitiés de coques de noix vidées, dont chacune mesurait 15 brasses de long. Lorsque nous les eûmes perdus de vue, nous soignâmes nos blessures et, dorénavant, nous restâmes la plupart du temps sous les armes, prêts à faire face à n'importe quelle attaque. Ce ne fut pas en vain. Le soleil, en effet, n'était pas encore couché que, d'une île déserte, nous vîmes foncer sur nous environ 20 hommes, montés sur de grands dauphins. C'étaient aussi des pirates. Les dauphins les transportaient en toute sécurité, bondissant et hennissant comme des chevaux. Lorsqu'ils furent près de nous, ils se séparèrent, les uns d'un bord, les autres de l'autre, et se mirent à nous bombarder avec des os de seiche et des yeux de crabe. Mais, devant notre tir, nos flèches et nos javelots, ils ne purent résister. La plupart furent blessés et ils s'enfuirent dans l'île.
Vers la minuit, un calme se produisit. Et, à l'improviste, nous nous échouâmes sur un énorme nid d'alcyon. Ce nid avait 60 stades de tour. La femelle naviguait dessus, tenant les œufs au chaud, et elle n'était pas beaucoup plus petite que le nid. En tout cas, lorsqu'elle prit son vol, il s'en fallut de peu qu'elle ne coulât notre bateau avec le vent de ses ailes. Elle s'enfuit, pourtant, faisant entendre un cri plaintif. Nous débarquâmes sur le nid, lorsque le jour fut levé, et nous constatâmes que ce nid ressemblait à un grand radeau, composé d'arbres énormes. Il contenait 500 œufs, chacun plus volumineux qu'une jarre de vin de Kyo. Déjà, les petits se voyaient à l'intérieur et ils pépiaient. Nous brisâmes l'un des œufs à coups de hache et nous en retirâmes un oisillon sans ailes, plus gros que 20 vautours. Lorsque nous fûmes éloignés du nid à une distance d'environ 200 stades, il se produisit parmi nous de grands et étonnants prodiges. Le col de cygne de notre proue se couvrit brusquement de plumes et se mit à chanter, et notre pilote Quintaros, qui était chauve, vit ses cheveux repoussés. Mais le plus extraordinaire de tout, le mât du navire mit des bourgeons, poussa des rameaux et des fruits apparurent au sommet. Ces fruits étaient des figues et du raisin noir, qui n'étaient pas encore tout à fait mûrs. À cette vue, nous fûmes naturellement fort troublés, et nous adressâmes une prière aux dieux étant donné l'étrangeté de cet événement. Nous n'avions pas encore parcouru 500 stades lorsque nous vîmes une très grande forêt, très touffue, de pins et de cyprès. Nous pensâmes d'abord que c'était un continent, mais en fait, c'était une mer sans fond, plantée d'arbres dépourvus de racines. Cependant, les arbres se dressaient, immobiles et droits, comme s'ils flottaient. Lorsque nous fûmes tout près et que nous eûmes compris de quoi il s'agissait, nous étions dans un grand embarras, ne sachant que faire. Car il était impossible de naviguer à travers les arbres. Ils étaient serrés et fort proches les uns des autres, et il ne nous semblait pas facile non plus de revenir en arrière. Je grimpais donc à l'arbre le plus élevé, et de là-haut, regardais comment se présentait la mer au-delà. Je vis alors que la forêt s'étendait sur 50 stades, ou un peu plus, et qu'ensuite, un autre océan s'ouvrait. Nous décidâmes donc de hisser le navire sur les frondaisons des arbres, qui étaient fort denses, et de traverser, si possible, jusqu'à l'autre mer. Et c'est ce que nous fîmes. Nous attachâmes le bateau à un grand câble, grimpâmes aux arbres et hissâmes le bateau à grand-peine. Puis, nous l'installâmes sur les branches, déployant les voiles comme sur la mer, et nous avançâmes, poussés par le vent qui soufflait. À ce moment, un vers du poète Antimaque me revint à l'esprit. Il dit, quelque part,
et poursuivant leur navigation forestière.
Après avoir ainsi forcé le passage à travers la forêt, malgré tout, nous arrivâmes jusqu'à l'eau et, de nouveau, selon la même méthode, nous descendîmes le bateau et nous continuâmes à voguer sur une eau pure et transparente jusqu'au moment où nous arrivâmes devant une grande crevasse qui s'était produite à la suite d'une séparation des eaux elles-mêmes, ainsi que l'on voit souvent sur la terre se former des crevasses provoquées par des tremblements de terre. Nous eûmes beau renverser les voiles, le navire eut du mal à s'arrêter, et peu s'en fallut qu'il ne fût englouti. En nous penchant, nous vîmes un gouffre profond d'environ 1000 stades, extrêmement effrayant et extraordinaire. L'eau se dressait de chaque côté, comme coupée en deux. En regardant alentour, nous vîmes sur la droite, à quelque distance, un pont qui franchissait la crevasse. C'était de l'eau qui joignait les deux surfaces de la mer et qui coulait d'un océan dans l'autre. Nous forçâmes sur les avirons et suivîmes ce courant et, au prix de grands efforts, nous parvînmes à passer, contre toute attente. Après quoi, nous trouvâmes une mer calme et une île de médiocre étendue, aisément accessible, qui était habitée. Elle était peuplée d'hommes sauvages, les têtes de bœufs, pourvues de cornes, comme chez nous l'on représente le Minotaure. Nous débarquâmes et pénétrâmes dans les terres pour trouver de l'eau et ramasser de la nourriture si nous le pouvions, car nous n'en avions plus. De l'eau, nous en trouvâmes tout près, mais nous ne rencontrâmes rien d'autre. Seulement, l'on entendait de grands mugissements au voisinage. Pensant que c'était un troupeau de bœufs, nous avançâmes avec précaution et, brusquement, nous fûmes en présence des hommes que j'ai dit. Quand ils nous virent, ils se mirent à nous poursuivre et capturèrent 3 de nos compagnons. Les autres, moi parmi eux, nous nous enfuîmes vers la mer. Là, nous prîmes les armes, car nous décidâmes de ne pas laisser nos ennemis sans vengeance, et nous tombâmes sur les têtes de bœufs, tandis qu'ils étaient en train de partager la chair des hommes qu'ils venaient de tuer. Nous les mîmes en déroute, les poursuivîmes, et en tuâmes une 50. Nous en prîmes 2 vivants, puis nous battîmes en retraite avec nos 2 prisonniers. Mais nous n'avions pas trouvé de nourriture. Mes compagnons me conseillaient de tuer les 2 captifs, mais je ne les approuvais pas. Je les fis attacher et garder jusqu'au moment où vinrent de la part des têtes de bœufs des ambassadeurs pour nous offrir une rançon en échange des prisonniers. Nous comprîmes les signes qu'ils nous firent et aussi leurs mugissements plaintifs, comme s'ils nous suppliaient. La rançon se composa de force fromage, de poissons séchés, d'oignons et de 4 cerfs dont chacun n'avait que 3 pattes, les 2 pattes de derrière, tandis que les 2 de devant s'étaient soudées en une seule. Moyennant ces provisions, nous rendîmes les prisonniers et, après être restés là un seul jour, nous repartîmes. Bientôt, nous vîmes des poissons, des oiseaux volèrent auprès de nous et tous les signes qui indiquent l'approche d'une terre nous apparurent. Peu de temps après, nous vîmes des hommes qui utilisaient une étrange façon de naviguer. Ils étaient eux-mêmes à la fois marins et navires. Je vais vous dire comment ils s'y prenaient. Ils se couchaient sur l'eau, le ventre en l'air, dressant leurs membres, ils en ont un très grand, et y attachant une voile, puis ils saisissaient les écoutes de leurs mains et, entraînés par le vent, ils voguaient. Après cela, en vinrent d'autres, assis sur des bouchons attelés de 2 dauphins qu'ils conduisaient et qu'ils guidaient avec des rênes. Les dauphins, en avançant, entraînaient les bouchons. Ces hommes ne nous firent aucun mal, et ne s'enfuirent pas non plus à notre approche. Ils continuèrent leur route sans peur, paisiblement, regardant avec étonnement l'aspect de notre bateau et nous examinant de tous les côtés.
Le soir, nous abordâmes dans une île de médiocre étendue. Elle était habitée par des femmes, du moins nous le pensâmes, qui parlaient grec. Elles vinrent nous saluer, nous souhaitèrent la bienvenue et nous embrassèrent. Elles étaient parées comme des courtisanes. Tout était belle et jeune, et elles portaient de longues robes qui traînaient à leurs pieds. L'île s'appelait Luther, et la cité elle-même, Eau Morte. Ces femmes nous emmenèrent chacune chez elles, où elles nous offrirent l'hospitalité. Moi, je m'éloignais un instant,
car tout cela ne me disait rien qui vaille. Et en examinant les environs, avec plus d'attention, je vis sur le sol quantité d'ossements et de crânes humains. Me mettre à crier, appeler mes compagnons et courir aux armes ne me parut pas le bon parti. Mais je tirai ma mauve et la suppliai ardemment de nous faire échapper aux maux qui nous menaçaient. Peu après, tandis que mon hôtesse me servait, je m'aperçus qu'elle n'avait pas des jambes de femme, mais des sabots d'âne. Alors je tirai mon épée, je sautai sur la femme, je l'attachai et l'interrogeai sur toute l'affaire. Et elle, de mauvais gré, me dit qu'elles étaient des femmes marines, appelées jambes d'ânesse, et qu'elles se nourrissaient des étrangers de passage. Une fois, me dit-elle, que nous les avons enivrées, nous nous couchons auprès d'eux, et quand ils dorment, nous les tuons. Ainsi renseigné, je laissai la femme attachée. Je montai sur le toit de la maison, où à grands cris j'appelais mes compagnons. Quand ils furent rassemblés, je leur racontai tout ce que je savais. Je leur montrai les ossements et les fis entrer pour voir la femme attachée. Mais elle, aussitôt, se transforma en eau et disparut. Pourtant, je plongeai mon épée dans cette eau pour voir ce qui arriverait. Et cette eau devint du sang. Alors nous retournâmes au plus vite sur le bateau et nous partîmes. Lorsque le jour parut, nous avions une terre en vue. Nous jugeâmes que ce devait être celle qui était située à l'opposé de la nôtre. Après nous être prosternés et avoir prié les dieux, nous nous mîmes à envisager l'avenir. Les uns proposaient de débarquer seulement, puis de revenir sur nos pas. Les autres, de laisser là le navire et de pénétrer dans l'intérieur du pays pour voir comment étaient les habitants. Mais tandis que nous discutions de la sorte, une violente tempête s'abattit sur nous, jeta le bateau à la côte et le brisa. Nous eûmes le plus grand mal à nous sauver à la nage, en emportant chacun ses armes et tout ce qu'il put. Je vous ai maintenant raconté mes aventures jusqu'à l'autre terre, sur la mer d'abord, puis pendant la navigation, parmi les îles et en l'air, ensuite dans la baleine, et lorsque nous en fûmes sortis, chez les héros, au pays des songes, et enfin chez les têtes de bœufs et les géantes d'ânesse. Ce qui nous est arrivé sur terre vous sera conté dans les livres qui viennent maintenant.
Sur Radio Cadu 102.2 FM, la plus rebelle des radios, c'était J'aime pas lire, et c'était plus précisément Des voix dans la tête, avec l'ami Borborythme qui se trouve à ma gauche en studio.
Voilà, et avec Psychonautes qui présente l'émission ce soir. Et on a lu donc pour vous le livre 2 des histoires véritables de Lucien.
Ouais. Lucien de Samosate. Le fabuliste
Du 2e siècle après Jésus-Christ.
Ah ouais, ça fait y a longtemps.
Un grec qui a beaucoup voyagé, qui est même venu en Gaule à un moment se faire entendre, parce que voilà, on venait l'entendre dire ses dialogues, et puis dialoguer avec lui justement, qui avait pas mal d'humour et beaucoup de connaissances parmi les gens de son époque.
La semaine prochaine, dans J'aime pas lire, vous retrouverez la suite, enfin, de la lecture de Kif Kif Demain, de Faith Hagen, que nous finirons début juillet si elle n'est pas terminée ce lundi prochain. Nous recevrons ensuite le 1er juin l'artiste déphasé Out of Phase, et nous recevrons ensuite des jeunes gens qui vont nous amener beaucoup beaucoup de poésie. On vous en dira plus. Merci et à bientôt.
Au revoir.